Bonjour, il est 7h pétante, vous êtes bien sur le 93.9 de Divergence FM pour une matinale J-3. Et oui, vendredi, ce sera la dernière matinale de cette saison. Et je vais aujourd'hui en profiter pour donner la parole aux auditeurs, et tout particulièrement ce matin, en vous présentant un spéléologue, passionné d'histoire, et tout particulièrement d'un domaine presque délaissé et dont je n'avais jamais entendu parler, les grottes bâties, le bâti souterrain. Le décor de cette matinale étant planté, il ne me reste plus qu'à vous présenter Charlie, pour qu'il nous fasse partager un peu son savoir et son expérience. Bonjour Charlie.
Oui, bonjour Gilles.
Alors, en deux mots, pour que les auditeurs de cette matinale puissent un peu comprendre l'histoire et le fil conducteur de cette demi-heure que nous allons passer ensemble. Si vous pouvez vous présenter aux auditeurs.
Mais avec plaisir. Bon, déjà, je m'appelle Charlie Vertonghen, pourquoi pas citer le nom. Je suis spéléologue à la base, bien qu'actuellement, je fais partie des dinosaures, puisque j'ai 63 ans. Après 40 ans de spéléo, j'ai décidé de me tourner un peu vers l'histoire. C'est ma seconde passion. Mais je reste quand même en souterrain. Et qu'est-ce qui concerne ces souterrains? Eh bien, c'est tout simplement les grottes bâties, ou plutôt le bâti souterrain, parce que c'est totalement différent.
Qu'est-ce que vous entendez alors comme par bâti souterrain?
C'est l'utilisation de la grotte par l'homme, en faisant abstraction bien sûr de l'archéologie, parce que c'est un domaine qui est excessivement délicat. Et je ne touche moi qu'aux grottes bâties qu'à partir du Moyen-Âge.
D'accord. Est-ce que dans la région, on peut trouver ce genre de produit, des grottes bâties, ou c'est quelque chose d'assez exceptionnel?
Ah, tout à fait, ici on peut dire que c'est le paradis des grottes bâties.
Pour préciser davantage, il existe combien de natures de grottes bâties?
On peut dire qu'on a quatre bâtis totalement différents. On a par exemple la bergerie, jas comme on l'appelle dans la région. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de transhumance, c'est-à-dire qu'au printemps, bien sûr, les troupeaux vont monter vers la Lozère pour transhumer, bien sûr. Si actuellement c'est facile avec les transports, bien que beaucoup de bergers utilisent toujours la route et à pied, dans une époque reculée, c'était beaucoup plus dangereux. La présence de loups encore, de voleurs de grands chemins. Le troupeau montait en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et à ce moment-là, le berger utilisait ce qu'on appelle des abris sous roche ou tout simplement l'entrée d'une grotte qui murait en pierre sèche. Ce qui permettait donc au berger de mettre son troupeau à l'abri donc pour la nuit.
Il y a d'autres types de grottes bâties?
Oui, bien sûr. Les plus célèbres dans la région sont sans doute les caves à fromage, les caves bâtardes comme on les appelle. Il y avait un peu plus de 150 caves à l'époque, donc à une époque pas si lointaine que ça. Les dernières ont fermé dans les années 50.
Ce qui veut dire que les grottes à fromage étaient à l'origine des grottes sur lequel l'homme a une intervention pour bâtir. Ce n'est pas quelque chose qui a été creusé par l'homme.
Ah non, du tout, du tout. Non, ce sont des grottes naturelles. Pourquoi des grottes et pas un bâtiment? Bien, tout simplement que dans ces grottes, on y a bâti des murs, carrément, cimentés bien sûr, avec des petites fenêtres où l'air pouvait circuler librement pour développer le fameux Penicillium Roqueforti qui a fait la réputation donc, mondiale de ce que je consistais, entre guillemets, au meilleur fromage du monde, le Roquefort.
Pourquoi pas?
Mais à une certaine période, Roquefort donc, a déposé le nom et toutes ces caves ont périclité une après l'autre. Il en existe encore actuellement qui tournent, mais qui ne peuvent pas porter le nom de Roquefort. C'est le bleu d'Écosse et c'est tout ce qu'on veut.
D'accord.
Mais le principe reste le même qu'au Xe siècle, hein, parce que c'est très vieux l'affinage du fromage.
D'accord. Ce sont les deux seules natures de grottes bâties?
Non. Il y a l'habitation troglodytique. Donc l'homme a utilisé, dans le Périgord, ça existe encore d'ailleurs, il y a des gens qui vivent, bon c'est forcément très modernisé, hein. Il y a électricité, il y a tout ce qu'il faut, c'est un véritable confort souterrain. Mais à une époque, c'est vrai que l'homme a utilisé donc l'habitat. Même au Moyen-Âge, les seigneurs profitaient de grandes baumes. Donc, ils sont des abris sous roche. Donc, c'était déjà un gain de temps en ce qui concerne les murs, hein, puisqu'on bâtissait vraiment que sur l'avant. Ça, c'est pour le Moyen-Âge, quoi. Et alors, il y a l'habitation troglo classique. Les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, les pauvres, ils étaient même très pauvres. Alors, on mettait tout le monde dans la grotte, c'est-à-dire on mettait les animaux en bas, vous vous dormiez à côté ou au-dessus.
Et on en retrouve aussi dans la région, malgré tout ?
Bien sûr, bien sûr. Mais plus vers le nord. Plus vers le nord, bordure de l'Aveyron même. Il y a même des grottes sanctuaires, j'en ai visité une il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, c'est une immense bombe. Et là, j'y ai découvert, enfin c'est pas moi qui l'ai découvert bien sûr, donc des sarcophages taillés à même le sol. Donc on enterrait les morts, on remettait le plancher au-dessus et on continuait à vivre.
D'accord. Ce sont les trois natures de grottes bâties que l'on trouve alors ?
Non, il y a encore le bâti à usage militaire.
D'accord.
Voilà, c'était des points de surveillance. Les plus célèbres sont dus donc aux Camisards, les Huguenots, donc qui étaient en conflit lors des grandes guerres de religion 1702-1705. Les papistes, donc les catholiques, ne bâtissaient pas. C'était principalement donc les protestants qui bâtissaient sur des points stratégiques, que ce qui est devenu maintenant des départementales, voire des nationales, eh bien c'était des sentiers à l'époque. Et ça permettait, situé en hauteur, donc de surveiller la montée des dragons de Louis XIV et de prévenir tout le monde, soit pour la fuite ou préparer l'attaque contre ces troupes royales.
D'accord. On va faire une toute petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après, Charlie.
No, I can't go home. until then.
Et bien voilà, on se retrouve toujours sur le 93.9 de Divergence en compagnie de Charlie Spéléo, particulièrement passionné par l'histoire, par les grottes bâties. Je vais de nouveau lui laisser la parole pour qu'il nous parle de quelque chose que je pense vous allez découvrir. À ma connaissance, je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène. De quoi vouliez-vous nous parler en particulier, Charlie ?
Ben, d'une cavité très particulière. C'est une cave à fromage, donc ça peut rester assez banal. Sauf que celle-ci est liée à la colonie pénitentiaire de Luc. Alors, la colonie pénitentiaire de Luc, c'est tout simplement une prison pour enfants. Alors, en effet, l'État français va voter aux alentours de 1850 une loi qui interdit aux juges d'incarcérer les enfants avec les adultes, ce qui se faisait donc à une certaine époque. Et ces enfants vont être transférés sur le Luc. Donc, pourquoi ? Parce que en 1856, c'est le bâti, c'est l'ouverture de la colonie. Donc les enfants vont arriver là. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'on parle de ces enfants ? Mais tout simplement que pas bien loin, il y a un abîme qui est pour moi le plus émouvant que j'ai visité. Dieu sait si j'en ai vu. C'est l'abîme de Saint-Ferréol qui est devenu cave à fromage. Alors pourquoi est-ce que c'est émouvant ? Eh bien, en 1882, la grotte va être ouverte pour l'affinage. Mais on va utiliser les enfants pour travailler là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a les cabanières, ce sont des dames qui sont là pour préparer, emballer le fromage. Ces enfants vont aider. En résumé, à l'époque, il y avait il existe encore, mais malheureusement en ruine, la laiterie. Donc, ils descendaient vers cet abîme qui fait quand même 60 mètres de profondeur. Ils descendaient grâce à un mont de charge, mais ça n'allait pas vite assez. Et l'entrepreneur, on appelait Marquez, va décider de percer un tunnel de 220 mètres, qui permet de descendre à pied vers la grande salle d'affinage. Alors, la légende veut que ce soit les enfants qui aient percé le tunnel, ce qui est faux, parce que lorsqu'on connaît un peu l'endroit, on se rend compte que c'est un travail de professionnel. Ce sont des mineurs, effectivement, qui ont percé ce tunnel. Ce qui est réel, par contre, ce sont les enfants qui ont eux-mêmes sorti les grabats. Ça, c'est clair. Voilà, donc en résumé, l'origine de cette cave. Donc le puits, pour citer la date, a été percé en 1884. Et en 1924, c'est la fermeture de la colonie pénitentiaire qui va devenir simplement école agricole.
Ça se visite toujours ou il reste plus grand-chose sur place ?
Ça se visite avec l'accord du propriétaire, bien entendu, parce que c'est une propriété privée, donc il faut quand même respecter cela. Ce qui reste en place, c'est tout ce qui est naturel. On a les murs qui se sont effondrés au fil des temps. Et au mieux, dans la grande salle, on a encore les étagères, mais qui sont complètement effondrées sur le sol, quoi. Et on devine donc aisément le travail excessivement dur de ces pauvres enfants là-dedans, parce qu'il y a une humidité constante. Hein, c'était pas les 35 heures à l'époque, ça c'est sûr. Hein, c'était les 50, 60 heures semaine. Quoi.
Très intéressant, très surprenant. Charlie, une toute petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember me. When the mountain rose before me, by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, when a dark night seems endless. Please remember.
Toujours sur le 93.9 en compagnie de Charlie. Alors une question qui me venait à l'esprit pendant cette petite pause musicale, c'est est-ce que vous êtes seul à tenter de découvrir et d'expliquer un peu l'histoire de ces caves bâties ?
Oh, comme bien souvent, j'ai commencé seul avec mon épouse, qui est un auxiliaire précieux, parce que le but de l'association, je vais en parler d'ailleurs, c'est de photographier et topographier les sites. Et étant seul, c'est très difficile. Mais en ce qui concerne le bâti souterrain, je ne suis pas le seul en ce qui concerne le territoire, bien sûr. Mais on est très dispersés avec, disons, des recherches totalement différentes. Alors avec mon ami Sandro, qui est un collègue de travail, j'ai décidé, donc nous avons décidé plutôt de former une association. C'est beaucoup plus facile, une association. Les statuts ont été déposés en préfecture, ont été acceptés. Nous allons les envoyer donc à la FFS, qui est la Fédération Française de Spéléologie, puisque je reste quand même très attaché donc à cette fédération en tant que spéléo. Et comme il s'agit de pommes, bien sûr, c'est forcément proche de la spéléologie. Alors à partir de là, donc, on va faire ce qui est entre guillemets le plus facile, c'est-à-dire photographier et topographier. Par contre, pour certaines cavités, le gros souci, c'est l'histoire. Et là, c'est une recherche que nous allons commencer. Autant les caves à fromage sont connues parce qu'il y a un ouvrage très important qui est sorti sur les caves bâtardes, qui est malheureusement épuisé, mais qui existe. Là, on a les dates, on a le pourquoi du comment. Le féodal, on peut encore s'y retrouver un petit peu, mais pour certaines choses, c'est l'inconnu. Surtout sur le bâti souterrain.
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes assez nombreux au sein de cette association ou vous aimeriez être rejoint par d'autres spécialistes ou moins spécialistes pour vous aider dans cette tâche ?
Pour l'instant, on peut dire qu'on peut se débrouiller à 4 ou 5, mais on a décidé d'un commun accord de limiter l'association, en membres je parle. Je crois que 10 maximum, ce serait bien, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est excessivement long, parce que dans une bombe qui est grande comme une pièce de maison, on peut y rester des heures assis à topographier, à chercher, etc. On ne fouille pas. Hein. Ça, c'est un des. On a mis ça dans les statuts, on se refuse le droit de fouille. Mais le fait de topographier et photographier, ça prend beaucoup de temps. Et certains spéléos ne sont pas assez patients pour ça.
D'accord. De nouveau, une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Et bien voilà, la demi-heure de cette matinale tire à sa fin. On peut remercier Charlie de nous avoir fait découvrir un patrimoine culturel et historique dont on ne parle pas souvent, les grottes bâties ou le bâti souterrain. Alors, le choix des musiques était celui de Sandro, le jeune spéléo qui accompagne Charlie dans ses recherches. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à demain, vous souhaiter une bonne journée. Ciao.